Prenez mes rois au village. Et quand je me rappelle le village au bord de la route blanche, d'où s'enlèvent à chaque coup de vent des traînées vagues de poussière, les haies vertes, les seigles qui ondulent tout là-bas jusqu'à la bande mystérieuse de l'horizon et mettent dans le paysage comme le flottement calme d'une mer, puis les murs de terre sèche qui couronnent des touffes d'ortie en fleurs, les toits de tuiles comme incendiés par la flambaison du plein soleil, les vols de pigeons s'éparpillant dans le ciel bleu, les cerisiers dont les branches croulent comme sous des avalanches de neige, et la rue sale barrée par les tas de fumier, silencieuse, où les couples de bœufs passent très lentement, où les vieilles gens marmonnent en prenant le chaud, où les poules picorent entre les cailloux et poursuivent les papillons aventureux. Quand je me rappelle ce décor paisible des Glogues, devant lequel on se sent comme un besoin de repos, comme une lassitude des membres, et je ne sais quel désir profond d'y vivre longtemps, d'y vivre toujours, je songe avec d'âpre colère à la pauvre petite Annie, à l'enfant tant douce, tant jolie, qu'ils ont tué les mauvais. Les propos commencèrent un matin autour du puits large, aux margelles usées, où les filles viennent remplir leurs loups de cruches et bavardent familièrement, tandis que les eaux s'égouttent avec une chanson claire. La Toinette, une commère hâlée, qui eût brouillé les 12 apôtres, ayant alléché la bande par des paroles hésitantes, une histoire d'amour interrompue aux premières phrases, avait enfin jacassé d'un ton effronté en montrant la petite qui raccommodait des tricots sur sa porte. Ah, regardez donc cette Annie qui se donne des airs de Sainte Vierge. Ça fait suer de voir des choses pareilles. Tire l'aiguille, Margot, tire l'aiguille, baisse les yeux, rougis quand les garçons t'appellent. Ça n'empêche pas qu'on le chasserait bien vite de la congrégation et que les anciens te frotteraient les jupes si je racontais seulement. Mais personne ne te croirait, Toinette, interrompent les autres avec des rires moqueurs. Chercheuse de poux, cria Marie Frescoul. Mon père donnait son temps à chercher les tiens, la belle, reprit Toinette, et haussant les épaules, elle ajouta: Puisque vous faites toutes vos dévotions à l'autel de la demoiselle, je garde mes secrets pour moi. Elle souleva sa cruche et la posa d'un geste robuste sur ses cheveux épais. Bonsoir, la compagnie, fit-elle. Et le visage négligemment détourné. Quand vous causerez avec Adnil, demandez-lui donc des nouvelles de Tristet, le taupier de Villevotte, et si l'herbe des bois était fraîche le soir du Fénétrat. Le lendemain, les brocarts de la Toinette furent colportés de maison en maison. Comment Annie, l'héritière des Peyramale, si jeune et si timide, avait fauté avant d'atteindre même ses 20 ans. Elle courait les galants, l'innocente, et quels galants! Un gueux n'ayant pas 3 pistoles dans un nœud de mouchoir, vagabondant les 12 mois de l'an par la campagne pour exercer son métier de crève-la-faim. Et l'on enjolivait déjà de détails cruels l'histoire première. Les amoureux se voyaient chaque nuit. Elle se languissait du Tistet toutes les longues heures des jours où elle ne pouvait le contempler et se sentir enveloppée de ses bras puissants. Elle s'endormait sur sa chaise en travaillant. Elle maigrissait à cette besogne de perdu qui lui cassait les chines et lui cernait les yeux. On pouvait avoir un amoureux. Toutes les filles avaient leur promis. Elle connaissait toujours le péché avant le sacrement. Mais Anil dansait trop le guidou. En vérité, elle y laisserait son âme et son corps. C'était ainsi que, sans trêve, discouraient les méchants paroissiens du village comme des roquets hargneux qui hurlent aux étoiles dans le silence mélancolique des clairs de lune. L'héritière des pères Amal avait-elle donc mérité ces insultes implacables? Avait-elle vraiment connu les mois mystérieux, la joie délirante dont rêvent maladivement les belles filles pendant ces nuits lourdes de doutes où le sommeil ne peut clore les paupières? Pauvre d'elle, elle ignorait presque ce que c'était. Elle rayonnait en sa virginité sainte comme un lys qui s'ouvre doucement à l'aube. Elle aimait cependant avec une naïveté farouche. Elle aimait ce Tistet, ce garçon vêtu d'une peau de bique en haillon, qui mendiait parfois une torture de pain et un coin dans la grange, aux fermes quand l'ouvrage n'allait pas. Elle l'aimait parce qu'il était pauvre, déshérité, parce que les autres filles lui riaient au nez, parce qu'il était seul en ce monde à tirer sa douce vie. Elle s'apitoya d'abord et cette pitié se fondit peu à peu en un amour très doux. Puis les yeux du taupier luisaient d'une clarté si caressante, sa voix avait un charme triste, et lorsqu'il chantait, le cœur battait un coup plus fort. Anil aimait le taupier, et le soir du fenêtrant, oh, la toilette n'avait menti qu'à demi, dans le tumulte fou des rondes, les deux jeunesses s'étaient sauvées vers le noir en se tenant la main. Tistel avait imploré avec de telles prières qu'elle n'avait pas su dire non. Et ils avaient erré le long des chemins, troublés d'être seuls pour la première fois, s'enfonçant dans l'ombre ténébreuse des feuillages. Elle n'osait pas lui parler. Il n'osait pas l'enlacer d'une étreinte folle. Ils étaient revenus sur la place sans avoir échangé seulement un de ces baisers furtifs dont la tiédeur s'éternise aux lèvres comme un parfum subtil que rien ne peut chasser. L'automne finissant, Anil eut la mauvaise fièvre d'octobre. Elle grelottait tout le jour. Ses pommettes saillaient comme plaquées maladroitement de phare. Ses jambes flageolaient. Elle n'avait plus la force de marcher. Un matin, elle ne put se lever et elle resta étendue dans ses toiles comme morte, n'entendant pas les phrases qu'on chuchotait auprès de son lit, ne reconnaissant pas les figures familières. Ah, les cloches sonneront bientôt à baptême, répétèrent railleusement les voisins. Un baptême, et pourquoi, Pécaille? Eh donc, pour un petit Tistet. Vous saviez pas que la Nil est en mal d'enfant? Les pères à mal, de rudes médaillés qui ne songeaient qu'à leur semaille et à bien vendre les sacs de grains, s'étaient moqués jusque-là des médisantes calomnies qui, du matin au soir, leur bourdonnaient partout aux oreilles. Leur fille couchait auprès d'eux, elle ne quittait pas la maison, et les soirs de fête, c'était la plus tôt rentrée du village. « Je vous en souhaite une jumelle, » répondaient-ils à tous. Mais cette antienne nouvelle qu'on débitait à leur porte les étourdit comme un brusque coup de cloche. Ils doutèrent. Anil ne les avait-elle pas trompés? N'avait-elle pas joué une comédie de vertu pour les rendre sourds au concert des autres? Cette maladie qui la clouait, débile, comme paralysée sur la paillasse, n'était-ce pas le mal honteux dont les amis se gaussaient en se tenant les côtes? Et rageusement, croyant enfin à toutes ces calembredaines, Ils clamèrent plus haut que tous. Leur fille ramassait donc des galants sur les grandes routes. Elle couchait dans les fossés. Il lui fallait des mendiants à cette pourrie. Ah, c'était du propre. Et on avait économisé des sous et des écus. On avait sué sur la glèbe. On s'était courbé la carcasse pour enrichir M. Tistet. Un claquedent sans papier, ni famille. Alors ils accablèrent la malade de haineuses injures. Ils la tourmentaient, ils la rossaient comme une bête rétive. Ils l'obligeaient à travailler malgré ses souffrances. Et lorsqu'elle roulait sous les fardeaux trop lourds, lorsqu'elle demandait grâce d'une voix sangloteuse, qu'elle les suppliait de ne pas croire les mensonges qu'on racontait, les anciens secouaient la malheureuse. Et lui criait durement, « Eh, feignante, allez, tristesse te consolera !» Elle connut toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les hontes. Tistet, croyant qu'elle s'était donnée à un autre, l'avait oubliée et courait ailleurs les aventures. Et abandonnée de tous, lassée de souffrances, à la nuit tombante, un soir, elle se sauva du logis, résolue à mourir. La voie du chemin de fer longeait les dernières maisons du village. Un Nil s'étendit sur les rails, attendant la mort avec une impatience désespérée, et le train broya son corps immaculé. Voilà pourquoi, lorsque je revois le village au bout de la route blanche, ce décor paisible des glogues devant lequel on se sent comme un besoin de repos, et je ne sais quel désir profond d'y vivre longtemps, d'y vivre toujours. Je songe avec d'âpre colère à la pauvre petite Anil, l'enfant tant douce, tant jolie, qu'ils ont tué les mauvais.